Bruxelles.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
À suivre vos réactions sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. C'était l'une des promesses phares du président Félix Tshisekedi. Pacifier l'est du pays. D'ailleurs, rappelez-vous, il y a quasiment un an, à Bukavu, le chef de l'État s'était dit prêt à mourir pour que la paix soit une réalité. Pourtant, les violences se poursuivent face à la recrudescence de l'insécurité. Plusieurs mouvements citoyens ont récemment lancé une pétition pour rappeler au président Tshisekedi ses engagements. En début de semaine, les gouverneurs du Nord et du Sud Kivu et de l'Ituri sont allés à Kinshasa. Ils ont rencontré le chef de l'État pour réclamer l'aide du gouvernement. Alors pourquoi est-il si compliqué de restaurer la paix? Pourquoi les violences continuent-elles? En tout cas, et vous l'avez entendu dans le journal de Xavier Besson il y a quelques instants, hier, Leila Zerougui, la chef de la mission des Nations Unies en RDC, a tapé du poing sur la table. Elle a dénoncé les accords conclus entre le gouvernement et certains groupes armés, des accords qui prévoient notamment une amnistie. Cela fait 20 ans que ces gens survivent car ils sont récompensés. Autrement dit, arrêtons avec les amnisties. Voilà le message en substance de la chef de la MONUSCO. On en parle évidemment durant les 20 prochaines minutes. 33 9 693 693 70. Je lirai comme tous les matins quelques-unes des réactions postées sur Facebook et WhatsApp, mais d'abord priorité à ceux qui nous appellent. Blaise, bonjour.
Bonjour monsieur Gomez et bonjour à tous les auditeurs de la Radio du Monde.
Vous disiez au Standard qu'il faut absolument un vrai ménage au sein de l'armée.
Absolument monsieur Gomez. Vous savez, le problème de l'Est, aujourd'hui on compte plus de 6 millions de morts. Alors que lorsqu'on aborde le sujet sur les génocides rwandais, il n'y a eu que 800 000 morts.
Bon, on n'est pas là, excusez-moi Blaise, on n'est pas là pour comparer le nombre de morts d'un côté comme de l'autre. On est là pour essayer de comprendre aujourd'hui comment pacifier l'Est du pays. Ça fait 25 ans que cette partie de la RDC est en proie aux violences. Comment se fait-il que ces violences continuent alors que l'armée a quand même multiplié les opérations militaires depuis quasiment 10 mois.
Ça va encore durer, rassurez-vous, monsieur Gomez. Vous savez, le problème de l'Est, c'est un problème d'homme. Tout ce que, certes, le gouverneur a rencontré le président de la République pour avoir quel résultat, c'est que le président Félix fait aujourd'hui, c'est ce que Kabila a fait. Monsieur Kabila a rencontré les notables de l'Est, il a rencontré le militaire de l'Est, il a rencontré le gouverneur de l'Est, et rien n'a absolument changé. Le problème, c'est quoi? Monsieur Félix, s'il continue à travailler avec le même qui ont travaillé avec Kabila, il aura le même résultat. Pendant 18 ans, le même chef militaire qui était à l'Est, ce sont les mêmes qui sont là, monsieur Gomez. Et certes, avec ce que Madame Bensouda a dit, il y a la complicité. La complicité est là. Et la complicité, c'est entre qui? Entre le militaire et le groupe rebelle. Et vous voulez quel résultat?
Donc pour vous, il y a forcément... Alors, Madame Bensouda, Fatou Bensouda, j'ouvre une parenthèse, procureur de la Cour pénale internationale. Donc pour vous, c'est évident, il y a connivence entre l'armée et les groupes rebelles.
Elle est mieux informée que quiconque, je vous l'ai dit. Si elle arrive à dire ce genre de propos, c'est qu'elle sait ce qu'elle dit. Le Congolais savent qu'il y a une complicité qui existe entre le gouvernement, notre gouvernement, avec ces groupes rebelles. Et donc, certes, ce sont les mêmes. Moi, je me dis...
Donc vous mettez tout le monde dans le même sac, Blaise. Vous accusez d'abord l'armée, après vous accusez le gouvernement. Donc finalement, tout le monde aurait intérêt à entretenir le chaos dans l'est de votre pays.
Mais l'Est de la RDC, c'est une partie riche. Monsieur Gomez, n'oubliez pas ça. Pourquoi il y a de massacres à l'Est? Tout simplement que c'est une partie riche. Et notre gouvernement, en complicité avec ces rebelles, qu'est-ce qu'ils recherchent à l'Est? Certes, il y a des gens qui meurent, mais eux, ils se retrouvent. L'armée est complice, le gouvernement est complice. Si le gouvernement n'était pas complice, le gouvernement mettrait le moyen. Oui. Pourquoi le gouvernement reste silencieux? C'est parce que le gouvernement connaît l'affaire à l'est de la RDC.
Oui, enfin, le gouvernement ne reste pas silencieux, et encore moins le président de la République qui est allé, vous le disiez tout à l'heure en préambule, Blaise, il est allé à l'est du pays, il est allé à Bukavu, il est allé à Beni, où il a même promis, rappelez-vous, il avait promis à la population qu'elle passerait les fêtes de fin d'année en sécurité. Eh bien, nous sommes au mois de septembre, il y a encore eu des exactions il y a quelques jours, on me dit à l'instant qu'on a un appel de Beni, alors on va le prendre en priorité, il se trouve qu'on parlait à l'instant de Beni. Blaise, bonne journée à Kinshasa. Bonjour Omar.
Bonjour Juan.
Vous êtes bien à Beni, c'est bien ça?
Bien entendu, je suis à Beni.
Régulièrement confronté aux attaques des groupes rebelles et notamment des ADF, comment expliquez-vous que malgré les promesses, les engagements du président de la République, votre ville soit encore confrontée aux miliciens, aux attaques, il y a encore eu des morts il y a 2 jours, il y a encore eu des morts il y a 15 jours?
Alors, non seulement on a l'impression que nous sommes abandonnés, mais également, nous avons l'impression qu'on minimise l'ampleur de la menace à laquelle nous sommes confrontés. Parce que de loin, on a l'impression de dire qu'on est confronté aux groupes armés, aux milices. On ne dit pas tout haut qu'à Beni, nous sommes confrontés à un mouvement terroriste, l'ADF, un mouvement qui a des connexions avec un mouvement terroriste international, je cite le Daesh, et un autre mouvement international, Al-Shabaab en Somalie, et un autre au Mozambique, Al-Sunna. Donc nous sommes en face, nous, d'une très grande menace, et malheureusement, ce n'est pas pris aussi au sérieux que des grandes autorités, des grands décideurs de ce monde.
Donc il faut arrêter de considérer les ADF comme un groupe rebelle, mais plutôt comme un groupe terroriste. Et du coup, ça changerait la donne? Vous pensez que la communauté internationale serait davantage à vos côtés?
Bien entendu, nous pensons que si cela est compris de tout le monde, des grands décideurs de ce pays, des autres grandes puissances qui sont engagées dans la lutte contre le terrorisme, on ne va pas continuer à dire qu'à l'est de la RDC, à Beni principalement, la population est confrontée aux groupes armés. On dira clairement que la RDC fait face au terrorisme et sachant que face au terrorisme, il faut une synergie d'efforts, une synergie des États. Nous pensons que la RDC ne restera plus orpheline et l'armée congolaise sera aussi soutenue par d'autres puissances qui connaissent que le terrorisme, c'est un mal qu'il faut combattre ensemble.
Pourtant, l'armée congolaise s'est déployée dans votre ville. Il y a quelques mois, il y a eu une opération militaire de grande envergure.
Monsieur Rouen, il y a seulement 2 semaines, nous comptabilisons 59 civils qui ont été massacrés par les ADF. Ouais. Il y a des opérations qui se poursuivent ici, à Beni, depuis 6 ans. Et les dernières offensives dites de grande envergure, lancées par le président Félix Tshisekedi, ont été lancées le 30 octobre de l'année dernière. Mais dans l'intervalle de 9 mois, notre organisation, parce que je suis d'une organisation de défense des droits humains, nous sommes à plus de 815 civils tués. Alors, quel bilan il faut faire?
Effectivement.
C'est vraiment un sentiment qu'on est abandonné.
C'est vrai que les chiffres sont là. Alors, il y a les vôtres, hein, donc visiblement d'une organisation de défense des droits humains, mais il y a les chiffres de l'ONU. L'ONU rapportait qu'entre janvier et juin 2020, 4113 violations et atteintes aux droits de l'homme commises dans l'est de la RDC, plus de 1300 personnes exécutées par des groupes armés entre janvier et juin. 1300 personnes, c'est 3 fois plus que l'année dernière à la même époque. Donc on peut parler véritablement d'une détérioration de la situation sécuritaire. Omar, merci infiniment de ce témoignage. 33 9 693 693 70. Fabrice, bonjour.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs de RFI,
merci.
De la République démocratique du Congo.
Et depuis Matadi surtout, d'où vous nous appelez Fabrice. On essaye de comprendre ce matin comment expliquer la détérioration de la situation sécuritaire à l'Est. Vous êtes à Matadi et vous disiez que la solution ne passe pas forcément par les opérations militaires, elle passe par un dialogue.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que non, puisque au niveau de l'armée, il y a un problème de l'armée. Il y a eu d'abord tous les programmes qui s'est passé dans le passé, surtout pour l'intégration de tous les groupes armés. Il y a eu un problème dans ces programmes que le gouvernement n'a pas eu à aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que non, on n'a pas eu à achever. Comment expliquer cela? Cela est dû à ce que le gouvernement, en intégrant tous les groupes armés, il n'a pas eu à mettre en place un mécanisme de suivi qui permette à ce que là où il y a eu des troubles, là où il y a des guerres là-bas à l'Est, pour intégrer tout le monde. C'est-à-dire que non, ces bandes armées, il y a un nombre de personnes qui viennent à Kinshasa ou soit le gouvernement intègre seulement certaines personnes.
Donc, attendez, Fabrice, pour que les choses soient claires et pour aller un peu droit au but, vous préconisez l'intégration de tous ceux qui déposent les armes?
Oui, l'intégration de tous ceux.
Mais il faut les intégrer, excusez-moi, au sein de l'armée, comme c'est déjà le cas à travers un certain nombre d'accords conclus par le gouvernement avec avec des groupes armés, ou les réintégrer dans la société civile. Ce n'est pas la même chose.
Oui, effectivement. C'est-à-dire, on doit les intégrer, c'est-à-dire avec les programmes qui est déjà en cours, on doit les intégrer dans l'armée, si possible aussi, les intégrer aussi dans la vie civile, bon. C'est-à-dire des programmes. Dans quel sens? Pour bien expliquer,
oui. Ceux
qui voudront en faire rentrer dans la vie civile, ça ne pose pas un problème, on peut les intégrer là-bas. Mais le plus grand problème dans tout ça, c'est quoi?
Oui.
C'est qu'au niveau des Kinshasa, ils doivent d'abord réformer l'armée. Il faut réformer l'armée.
On s'éparpille un tout petit peu, Fabrice. Hein. Vous parlez des programmes de réinsertion, vous enchaînez avec la réforme de l'armée. Certes, ce sont de vrais problèmes, de véritables préoccupations, mais je voudrais qu'on donne la parole à d'autres auditeurs. Vous êtes très nombreux, comme à chaque fois, sur la République démocratique du Congo. D'ailleurs, je n'ai pas encore lu le moindre commentaire posté sur Facebook, et là, vous êtes plus de plusieurs centaines à avoir pris l'initiative de nous écrire. D'abord le standard, évidemment, d'abord la priorité aux auditeurs qui nous contactent. Gabriel, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Gabriel, comment expliquez-vous cette situation qui n'en finit pas de se dégrader dans l'Est?
Exactement, la situation qui se passe à l'Est du pays devient de plus en plus inquiétante. Mais je pense que je me synthétise en trois piliers majeurs. Primo, je me rallie d'abord à l'idée de Mme Leïla Zerungi qui propose le désarmement. Je pense que le désarmement serait la solution idoine.
Oui.
Mais je ne me rallie pas à l'idée de l'intervention des groupes rebelles au niveau de l'armée. Ça, personnellement, je ne partage pas d'avis. Je ne pense pas qu'il faudrait que tous les miliciens qui vont des armées intègrent l'armée. Là, personnellement, je ne suis pas d'accord.
Et vous êtes d'accord avec elle lorsqu'elle dit, lorsque la chef de la MONUSCO disait hier, il faut arrêter avec l'amnistie?
Personnellement, ça, c'est tout à fait d'accord. Il faut arrêter. Il faut arrêter avec l'amnistie parce que on ne peut pas prévoir l'impunité. Ça, c'est prévoir l'impunité. Ces gens ont tué beaucoup de personnes et ils doivent être sanctionnés, ils doivent être jugés. La justice doit faire son travail. Et donc, en matière de crime, nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait des amnistie comme ça. Là, personnellement, je ne suis pas d'accord.
Oui. Donc, le professeur, le docteur Denis Mukwege a raison d'interpeller la communauté internationale pour mettre en place un tribunal, un tribunal pénal international pour juger tous les crimes commis depuis 1993.
Exactement. Justement, il faudrait, je m'en joins vraiment à l'idée du docteur Mukwege, il faudrait qu'il y ait un tribunal spécial capable de juger ces différents crimes-là. Et cela va mettre fin à l'impunité, parce que ce qui se passe à l'est du pays, ben, ça fait partie d'abord parmi les promesses phares du président de la République, la lutte contre l'impunité.
Oui.
Mais c'est le contraire que nous voyons. La pratique en est une autre chose.
Oui.
Voilà pourquoi je m'en joue à cette idée-là. Il faudrait qu'on mette en place un tribunal spécial capable de juger ces différents crimes-là.
Et d'arrêter donc avec l'amnistie. Merci infiniment, Gabriel. Bonne journée à Kisangani. 33 9 693 693 70. Bonjour, Steve.
Bonjour, Juan.
Vous ne dédouanez pas le président Tshisekedi, mais vous trouvez que la communauté internationale a quand même sa part de responsabilité dans la situation dans l'Est.
Absolument, absolument. Parce que si les Nations Unies avaient décidé de réaliser en RDC le plus grand déploiement militaire de leur histoire, c'est parce qu'ils avaient réalisé l'incapacité de la RDC à faire face à l'immense drame qui se passe à l'Est. Donc, comment expliquer que la plus grande force onusienne déployée dans le monde n'ait pas réussi en plus de 20 ans à pacifier l'Est et la RDC, alors que par son rapport mapping, elle connaît les acteurs nationaux, sous-régionaux, régionaux, internationaux, à la base de ces génocides que tout le monde fait semblant d'ignorer. Donc, comme je le disais, sans occulter la responsabilité de nos institutions nationales, je pense que c'est à ce niveau que la réflexion doit aujourd'hui être portée.
Ouais. Donc, donner quoi? Davantage de moyens aux casques bleus déployés dans votre pays? Je me souviens, il y a quelques mois, lorsque la MONUSCO était une fois de plus interpellée par la population, notamment à Beni. La MONUSCO défendait son bilan. Elle disait il y a deux ans, un tiers du territoire congolais était confronté aux violences armées. Eh bien désormais, moins de 10% du territoire est concerné par ces violences. Donc il y a tout de même des progrès.
Certainement. On ne peut pas balayer d'un revers de la main tout ce que la MONUSCO a réalisé. Enfin, en fait. Mais sa mission principale, c'était de sécuriser l'Est. Et aujourd'hui, l'Est n'est toujours pas sécurisé. On continue à tuer, à violer, ainsi de suite. Donc l'idée d'un tribunal pénal international sur les RDC s'impose. Surtout que les acteurs, comme je le disais tout à l'heure, sont connus.
Oui, bien sûr, sont connus. Vous faisiez référence à ce rapport de l'ONU publié il y a quasiment 10 ans, jour pour jour. 10h55 à Paris, il nous reste 5 minutes. Nous accueillons Emmanuel, peut-être. Bonjour Emmanuel.
Oui, bonjour Juan Gomez. Alors, bonjour à tous les auditeurs de la radio mondiale RFI.
Comment analysez-vous la situation à l'est de la RDC?
Monsieur Juan Gomez, d'abord je compatis avec mes concitoyens, mes compatriotes de l'Est. Tout ce qui se passe, nous qui sommes à Kinshasa, nous sommes vraiment de cœur avec eux. Seulement, je voudrais ajouter que nous sommes tellement attristés par tous ces événements malheureux qui se commettent. Alors, nous lançons un message d'abord. Nous lançons un message, celui de pouvoir faire confiance au chef de l'État qui a pris l'initiative. Je viens de suivre M. Blaise tout à l'heure qui parle que M. le président de la République continue de travailler avec tout le membre de l'armée qu'il a trouvé. Non, c'est faux. M. Blaise n'a peut-être pas l'information que le chef de l'État vient de remanier l'armée au niveau de l'Est.
Oui, enfin, en même temps, c'est vrai que sa marge de manœuvre pour faire le ménage au sein de l'armée est tout de même assez limitée.
Non, c'est pas assez limité. Le problème, c'est que les gens veulent des solutions immédiates. En fait, ils veulent trouver une solution dans l'immédiat. Vous voyez, c'est une affaire qui est un peu complexe et ça demandera du temps, bien que nous ne serons pas d'accord.
Emmanuel, vous défendez donc le bilan du président Tshisekedi. Vous dites les gens sont impatients, mais excusez-moi de vous rappeler que le président de la République en personne s'est rendu dans l'Est. Qu'a-t-il dit à la population au mois d'octobre de l'année dernière? Vous passerez les fêtes de fin d'année en sécurité.
Mais monsieur Juan Gomez, d'abord, ce message-là, le chef d'État l'a dit, il avait dit, vous l'avez relayé tout à l'heure là, en disant que s'il faut que sa vie soit mise en péril, qu'il perde sa vie pour que la paix soit recouvrée à l'Est, il le fera, il est capable de faire ça. Il a même promis que c'est son cheval de bataille. Alors, bien que ça va prendre du temps, faisons confiance à l'idée et au programme du chef d'État. C'est ça son leitmotiv. Bon. Je vous dis avant, moi je vous dis, et mes compatriotes de l'Est le savent, que avant que nous arrivions en 2023, comme l'a promis le chef d'État, la paix sera totalement effective en la partie. Et donc, c'est ça son cheval de bataille, qui se bat nuit et jour.
Bon. Vous êtes optimiste, Emmanuel. Optimiste, et on le souhaite évidemment que la paix soit une réalité quotidienne des habitants de l'Est de la RDC. Merci à vous. 3 minutes pour conclure, pour aujourd'hui en tout cas, 2 minutes me dit-on même, oui c'est vrai. Emery, bonjour.
Bonjour Rohan.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Je salue les auditeurs de la RSI, j'ai suivi tous mes prédécesseurs, je pense que nous devons être optimistes au vu des différentes réformes que le président est en train de prendre. Puisque lorsqu'il est descendu à l'Est, il avait 3 leitmotivs. Le premier, c'était la pacification de l'Est tout en essayant d'apaiser la tension avec les pays frontaliers, puisque les côtés Est de la République démocratique du Congo ne peut être en paix que si nous avons une stabilité avec nos amis de tous les pays frontaliers.
Ouganda, Rwanda, Burundi.
Rwanda, Burundi, puisque vous savez, ça fait une vingtaine d'années qu'il y a eu génocide au Rwanda, et il y a des Rwandais qui sont chez nous, qui se sont aussi disséminés par des différentes milices qu'on n'arrive pas à maîtriser. Comme déjà il y a des réformes du point de vue militaire, donnant la chance à l'armée et au chef de l'État pour voir comment ça va continuer, puisque ça ne va pas se faire d'emblée.
Oui,
ça,
bien
c'est
sûr.
Évident.
Oui. Encore faut-il que l'armée ait les moyens, que les militaires soient suffisamment nombreux pour sécuriser le pays et que ces militaires disposent du matériel nécessaire, compétent pour faire face aux différents groupes armés. Le débat en tout cas est loin d'être clos. On aura l'occasion, c'est promis, d'y revenir et pourquoi pas dès demain, vendredi, libre antenne. Vous choisissez le contenu de l'émission. Donc on parle des sujets qui vous intéresse, 33 9 693 693 70. Je vous laisse en bonne compagnie. Bonjour Caroline. Paris.